suis Claire Stride, je suis consultante. Alors, me présenter, on en parlera, je pense, à la prochaine question. Qu'est-ce que vous dire à... J'ai un parcours totalement atypique. Dans une ancienne vie, j'étais spécialiste en histoire médiévale, je décryptais des parchemins anciens et aujourd'hui, je suis dans les neurosciences. Donc, voilà, je vous laisse imaginer comment on avance dans tout ça. J'ai été prof, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait serveuse, enfin voilà. Et surtout, je suis épanouie et heureuse dans ce que je fais et ce qui m'anime au quotidien.
Alors, qu'est-ce que tu fais?
Qu'est-ce que
Donne-nous
je fais?
donne-nous la
J'aime bien, tu sais, ce mot de slasheuse où en gros je fais tel truc slash machin, voilà. J'ai plein d'activités. Je suis consultante donc auprès des entreprises. Je fais de la préparation mentale pour des sportifs. Je fais de l'accompagnement aussi de grands chefs. Je fais de la formation dans les entreprises. Je suis auteur, autrice, mettez le mot que vous voulez. Donc j'écris des bouquins qui se vendent. C'est quand même un truc chouette. J'écris des bouquins qui se vendent. Ça, c'est pas mal. J'organise des colloques sur les diversités cognitives. Je m'éclate avec les neurosciences. Je fais de la neuropédagogie. Je fais quoi d'autre? Je fais plein de choses. J'ai monté plusieurs entreprises et je pense que j'ai oublié des choses dans ce que je viens de te dire. Je suis vraiment là pour. Et aussi, bien sûr, j'ai un one-woman show qui s'appelle C'est décidé, je deviens moins con, où tous ces supports-là, en fait, tous ces canaux-là, tous ces trucs slash tout ça, font que j'utilise les neurosciences pour permettre à tout le monde, quelle que soit sa situation, d'améliorer sa situation, d'améliorer sa prise de décision. Et mon gros dada à moi, c'est ce qu'on appelle l'intelligence relationnelle, l'intelligence émotionnelle. Et on va le vivre à plein de niveaux, que ce soit dans les entreprises ou pour les particuliers. J'ai aussi une chaîne YouTube, par exemple, je suis pas mal suivie sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'est donner aux gens les outils pour qu'ils comprennent le fonctionnement de leur cerveau et qu'ils fassent les choix qui leur correspondent.
Comment tu fais pour cumuler du coup toutes ces casquettes, tous ces métiers en même temps?
Alors, en fait, c'est si je ne cumulais pas ça, je n'arriverais pas à être en phase avec qui je suis. Je ne sais pas être monotâche. J'ai des statuts d'indépendant ou d'associé sur la plupart de mes projets. Et par rapport à tout ce que je fais professionnellement, donc tout ce qui me ramène, j'allais dire, du cash, je suis aussi quelqu'un de très engagé dans des associations, donc j'ai aussi d'autres casquettes de mentor, d'élu, etc. Et en fait, ça se fait très simplement à partir du moment où je n'ai pas peur qu'on me dise que je suis dispersée et désorganisée. On va dire que j'ai cette faculté de penser à plein de choses en même temps. Et c'est un petit peu, enfin, je ne sais pas si tu vois l'image d'une console en régie son, par exemple. Tu sais, tu avances tous les petits boutons voilà, de façon différente. Pardon pour ceux qui sont, j'allais dire, des experts de ce métier-là. Je ne connais pas, mais j'aime cette image de je pousse des boutons un peu, je recule, etc. Je ne suis jamais à 100% sur toutes mes activités. Je ne suis pas tout le temps en train d'écrire un bouquin. J'ai mis plein d'activités qui me permettent d'avoir des revenus en décalé, l'écriture de livres, les formations en ligne, etc. Et j'avance au coup de cœur, à l'urgence, et je trouve un équilibre dans tout ça. Comme je te disais, je ne suis pas capable de faire une seule activité. Si je n'ai pas tous ces différents champs-là, je ne suis pas nourrie, je procrastine et je suis pas, je suis ni productive ni utile. Enfin, vous n'aurez pas le meilleur de moi si je suis obligée de faire quelque chose de monotâche.
Ok, donc tu n'es pas salarié, tu disais que tu as une micro-entreprise, tu as des entreprises.
Alors, j'ai plusieurs entreprises. J'en ai une en entreprise individuelle, qui est un organisme de formation sur lequel je suis Calliope. J'ai une holding, en fait, qui me permet de créer d'autres structures. Donc, à côté de ça, j'ai une autre entreprise qui est plus sur tout ce qui va être conférences et spectacles. Je suis associée, là, je suis en train de créer une nouvelle entreprise avec trois associés pour de la formation pour les femmes dans le bâtiment, qui s'appelle Les Rayonnantes. Et je suis aussi en train de m'associer, pardon, avec un autre professionnel de l'accompagnement pour qu'on rassemble nos activités. Donc à chaque fois, je suis, comment dire, je suis en posture de dirigeante, pas salariée parce que c'est pas quelque chose qui me parle. J'ai eu des expériences douloureuses de CDD et de CDI. Et par contre, je bosse en réseau. C'est-à-dire que même si j'ai pas de salariés, j'ai un réseau de 8, 10, 12 autres experts avec qui on fonctionne ensemble. On a vraiment monté ça sur mon site internet. Il y a une page qui s'appelle Claire & Co. C'est les personnes avec lesquelles je bosse le plus. Et puis, j'ai plein de prestataires fidèles, j'allais dire, avec qui on bosse depuis des années. Et on avance tous ensemble. Et en fait, on aime cette liberté de se dire, voilà, on est en presta, on avance ensemble, on s'envoie des messages, machin, etc. On se rassemble ensemble aussi, ça c'est très chouette, on a créé des moments où on se voit et on a notre équilibre, nous, comme ça.
Est-ce que tu recrutes des gens? Est-ce que
alors,
tu
je
as des
recrute...
salariés?
Ouais, alors, je n'ai pas de salarié, c'est un choix aussi, parce que autant je sais expliquer dans les entreprises comment manager, autant je suis une horrible manager. Je me connais, je suis extrêmement exigeante et je vais très très vite et c'est très compliqué de bosser avec moi. J'ai des stagiaires qui ont survécu, il faut leur remettre une médaille vraiment, je t'assure, qui d'ailleurs sont mis à leur compte et avec qui on bosse ensemble aujourd'hui. Pour l'instant, je suis plutôt avec des prestataires et en fait, comme je t'ai expliqué, je suis sur plein de choses, de slash. Je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui pige tout ce que je fais. Et du coup, dans une seule activité, je n'ai pas suffisamment de quoi nourrir une personne en CDI. Autre point, je n'ai pas de siège social, enfin, j'ai pas de local. Donc, je n'aurai pas d'endroit pour mettre un salarié vu que je suis vraiment une nomade worker et que je suis entre deux avions toutes les 5 minutes. Donc, c'est vrai que mon organisation aujourd'hui ne favorise pas un salariat. Après, dans les autres structures, notamment celles que je développe là, pour les femmes éloignées de l'emploi dans le bâtiment, là, on réfléchira à recruter quelqu'un, mais parce qu'on sera sur un autre modèle, en fait.
OK. À quoi ça peut ressembler une semaine type s'il y a quelque chose qui se rapproche d'une semaine type?
Alors, ma semaine type idéale, elle est que je ne travaille pas le matin. En fait, ça, c'est un truc, j'allais dire merci le confinement. Je me suis écoutée là-dessus. Je suis plutôt un diesel le matin. J'ai beaucoup de mal à être en interaction humaine. C'est avant le café, tu ne me parles pas. Et après le café, tu ne me parles pas non plus. C'est vraiment ce côté où j'ai besoin de prendre soin de moi pour pouvoir aller prendre soin des autres. Et toutes les missions qui commencent à 9h du matin, typiquement en formation, sont assez difficiles pour moi. Donc, j'essaie d'en avoir le moins possible. Mais je travaille, par contre, comme je travaille sur 3 fuseaux horaires, je peux travailler jusqu'à 22h, 23h et c'est mon rythme. Donc, ma semaine type, elle est mes matins m'appartiennent du mieux possible. À partir de 11h, je commence les rendez-vous en visio. Et puis après, ça dépend. Il y a forcément un déplacement dans la semaine, que ce soit en voiture ou autre moyen de locomotion un peu plus polluant. Et puis, ben, voilà, des voyages, des conférences, des coachings de groupe, des animations de masterclass, des interventions, des fois en anglais. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont possibles et aussi tous les rendez-vous associatifs.
OK. Ça a l'air dense. Ça a l'air.
Oui, mais quand je n'ai pas envie de travailler, je ne travaille pas en fait. C'est ça aussi qui est chouette. C'est-à-dire que je peux me prendre. Alors, moi, c'est la liberté que j'aime parce que j'ai aussi ma vie de famille qui va avec. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance de ne pas avoir d'enfant. C'est drôle comment je le présente aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas d'enfant. Ce qui fait que si je n'ai pas envie de bosser le vendredi et de bosser le dimanche, je le fais. Voilà. Et c'est ce qui me donne, je me rends compte par rapport à mes amis ou les personnes avec lesquelles je travaille, une très grande liberté par rapport à mon emploi du temps, en fait. Donc, j'ai cette totale liberté d'adapter mon planning par rapport à mes besoins, mes envies, mes impératifs, les grèves, etc. Je devais faire mon spectacle là, le 31 janvier, c'est annulé à cause des grèves. Bon, bah, on fait autre chose. Tu vois, j'ai cette capacité de réadapter à chaque fois et surtout ce qui guide mes choix, c'est mon bien-être et l'urgence de la personne en face. Je peux décaler des rendez-vous si j'ai quelqu'un qui ne se sent pas bien, parce que dans les personnes que j'accompagne, on peut avoir des gens tristes en amour, mais on peut avoir des gens aussi qui ont envie d'en finir. Et voilà, du coup, j'arrête tout pour pouvoir aider ces gens-là.
Vu que tu es dans plein d'écosystèmes différents, du coup, tu as une vision assez d'ensemble. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les tendances de ce que tu aperçois aujourd'hui dans le secteur du recrutement? Est-ce que tu vois des petits signaux faibles intéressants à prendre en compte?
Des petits signaux faibles, je vois des clients qui sont en désespoir. Je bosse beaucoup avec des gens dans le bâtiment et dans tout ce qui est maintenance. Et en fait, moi, j'ai mes clients qui n'en peuvent plus. Je bosse aussi beaucoup avec l'industrie et j'entends la même chose partout. On n'arrive pas à garder les gens, on n'arrive pas à recruter, on ne trouve personne, personne n'est intéressé. Les gens ne veulent pas travailler. Enfin, je t'épargne les clichés. Jusqu'à la réflexion d'une cliente il y a un an en disant ouais, je sais qu'il y a la guerre en Ukraine, il y a des Ukrainiens qui vont vouloir venir bosser chez nous parce que nous on trouve personne. Et j'ai pas trouvé ça drôle comme remarque. Par contre, je me suis dit que c'était vraiment révélateur en fait de la détresse des chefs d'entreprise par rapport à tout ceci. Je vois aussi mes clients vivent des choses, des situations extrêmement délicates, voire insupportables dans leur relation avec leurs salariés. Et j'ai l'impression, en fait, moi, ce n'est pas un signe faible que j'ai, c'est un gros signe fort de gros danger sur la relation de travail, en fait. Dans la perception même du fait de travailler, dans la perception de la relation dirigeant-salarié, il y a des choses à reconstruire. J'accompagne aussi des startups et ce que je vois, c'est que les gens ont du mal à trouver leur place. Qu'effectivement, je ne sais pas où sont passés les gens, nous sommes en période de plein emploi, formidable, mais on fait comment? Moi, je bosse avec la restauration, avec le bâtiment, avec la maintenance, manque de personnel de façon dramatique et on ne trouve pas les gens. D'où le fait pour moi de monter des solutions en recrutant des femmes éloignées de l'emploi qui n'ont aucune expérience, que nous formons directement, mais qui ont un CDI à la clé. Et là, on se heurte aussi à d'autres choses, c'est-à-dire qu'il y a le côté, en fait, difficulté de recrutement d'un côté et de l'autre, la mise en relation. Quand je vais voir des spécialistes du recrutement et leur dire, voilà, j'ai une formation pour les femmes dans le bâtiment, on me dit, jamais on ne proposera à des femmes d'aller bosser dans le bâtiment. Donc, tu vois, on a cette espèce de cercle vicieux aujourd'hui qui fait que, de ma fenêtre, la question du recrutement est primordiale. Elle vient toucher tous les secteurs et surtout, elle est sur la quête de sens, le rapport, en fait, salarié-dirigeant, où je vois des salariés exiger des trucs de dingue comme si on produisait l'argent, tu vois, comme si on avait tous des coffres-forts avec des lingots à l'intérieur, et puis aussi des dirigeants qui sont épuisés et qui n'arrivent plus à faire confiance. Et
Ouais.
moi, voilà, quand j'entends, je bosse avec des boîtes d'intérim qui me disent, je veux quelqu'un de fiable, quelqu'un qui reste et quelqu'un de respectueux. Ben, je peux pas vous le proposer, en fait. Et pour moi, on a un vrai, c'est une vraie question. De voir comment on peut sortir de cette situation qui, en tout cas de moi, dans ma réalité professionnelle, les entreprises que j'accompagne est catastrophique, avec un an de retard de travail pour certains de mes clients, tu vois.
Du coup, donc tu soulèves pas mal de problématiques. Est-ce que toi-même tu arrives à identifier quelques leviers, quelques pistes sur lesquelles les entreprises pourraient peut-être travailler pour réussir à trouver du monde qui a envie de venir bosser chez
Oui.
elles?
Oui, le levier, et on en parlait en off en préparant cette interview, moi je crois profondément dans tout ce qui va être soft skills, et c'est-à-dire montrer aux gens que ce n'est pas parce qu'ils ont une formation, un diplôme ou quelque chose qu'ils doivent forcément bosser là-dedans. Bon, ça c'était mon petit côté slasheuse, mais il y a plusieurs choses. Bon, déjà, il y a la vision même du travail, mais il y a le fait qu'on s'enferme beaucoup. Je te dis n'importe quoi, quelqu'un a un CAP pâtissier, ça ne lui viendrait jamais à l'esprit d'aller bosser comme vendeur de magasin, alors qu'en fait, il passe les deux tiers de sa journée à vendre, tu vois, il produit et puis après, il vend. Et en fait, pour moi, il y a besoin de décloisonner. Tout ce qui fait un peu, j'allais dire, tout ce dans quoi nous sommes formatés depuis l'école, où c'est qu'il y a un diplôme, un métier, et aussi d'arrêter de croire qu'il faut forcément avoir le bon diplôme pour bosser quelque part. On est de plus en plus à proposer des emplois pour des personnes qui n'ont aucune formation. On les forme sur le terrain, sur le besoin même de l'entreprise. En fait, c'est un vrai challenge. Je bosse pour des boîtes qui travaillent sur des bateaux, des choses comme ça, où on crée du parcours de formation sur mesure pour que les gens aient toutes les clés en main. Sauf qu'aujourd'hui, les gens, quand on va les voir, alors c'est un peu générique de dire les gens, on va dire les personnes en recherche d'emploi ou même qui sont dans un job où ils ne sont pas heureux, parce qu'on en a un paquet, on va leur dire, voilà, vous faites ça, on vous propose de vivre autre chose, on vous propose de vous former. Ben, il y en a plein qui disent non. Parce qu'en fait, ils ont peur de ne pas réussir. Tu sais, c'est toujours là, c'est petite parenthèse neurosciences, c'est le biais cognitif d'aversion à la perte. Hein. Tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu gagnes. Pas bien dans ton job, mais tu le connais, ton mal-être dans ce job-là. Tu peux râler toute la journée avec, c'est très bien. Par contre, oser aller faire autre chose qui te vient pas spontanément à l'esprit, bah, ça demande en fait toute une acculturation, j'allais dire, de la vision de la compétence plutôt que de la vision du diplôme.
Donc, travailler un petit peu plus cette valorisation des compétences plus que la valorisation des diplômes, que ce soit
C'est
en tant
ça.
que chargé de recrutement, mais même quand on est en recherche d'emploi sur son CV, quoi.
Tout à fait. Et oser cette transversalité. On développe des projets notamment sur les open badges, les badges numériques, hein, qui sont des reconnaissances aussi de compétences. Et c'est vraiment se dire, voilà, en fait, il y a plein de choses qu'on sait faire. Je sais que dans pas mal de recrutements, ben, on a beaucoup de gens qui sont bénévoles dans des assos, qui sont entraîneurs sportifs, etc. Et quand le gars me dit, non, mais j'ai jamais accompagné des gens, tu entraînes une équipe de 25 personnes. Tu vois? Mais comme c'est cloisonné, en fait, dans leur cerveau pro-perso, ils ne font pas forcément le lien. Donc, je pense qu'un super levier, justement, c'est voilà, c'est de décloisonner les choses et de rappeler aux gens qu'ils ont de la valeur et qu'ils savent faire des choses et surtout qu'ils peuvent oser vivre quelque chose. Parce que si on n'a que des salariés, en fait, dans nos entreprises pour qui ça ne fait pas sens, on ne va pas s'en sortir, clairement. Enfin, c'est pas très, très gai ce que je te dis, mais voilà, moi, c'est ce que je vis au quotidien et voilà, les gens sont inquiets, c'est normal. Donc, c'est important qu'on trouve des solutions pour pouvoir avancer.
Ouais. Tu parlais de faciliter l'accès à l'emploi. Quelles sont les actions que tu mets en place sur ce domaine-là?
Ben moi, donc, j'ai le projet des Rayonnantes, qui est donc pour les entreprises de la maintenance, pour l'instant essentiellement maintenance chaudière et pompe à chaleur, d'aller proposer à des femmes en reconversion professionnelle ou des femmes éloignées de l'emploi, ben, d'avoir un CDI. Et nous créons la formation. Il y a 3 mois de formation qui sont faits vraiment pour devenir agent de maintenance. On valide un titre professionnel. Il y a ensuite 3 mois d'intégration dans l'entreprise et après, il y a le CDI qui est signé. Et donc, bah, pour nous, c'est vraiment de, j'allais dire, d'apporter à des gens qui ne savent pas qu'ils peuvent bosser dans ce domaine-là, un parcours clé en main, pour pouvoir démarrer une nouvelle vie. Avec cette approche, j'allais dire, humaine, de dire aussi, venez aussi gagner en dignité. On vous propose un job chouette. Alors, OK, ça n'a pas l'air sexy comme ça d'aller faire des relevés sur une chaudière, mais ça se passe bien. C'est avec une tablette, c'est chouette, vous avez votre voiture, vous avancez. Et c'est de reconnecter aussi positivement les gens, et là surtout les femmes, à la vision qu'elles ont d'elles-mêmes en tant que femmes qui travaillent. Tu vois, il y a toute cette dimension-là. C'est un projet qu'on déploie France entière dans différents métiers, bâtiments et maintenance. Et bah, pour nous, c'est un type d'action. Il y a aussi toutes les actions vers les jeunes. Alors, je suis mentor engagé auprès de 100 000 entrepreneurs ou d'autres structures comme ça où on va témoigner. Bah, on se rend bien compte que nos témoignages, même si c'est très chouette, c'est pas forcément suffisant. Donc, il y a aussi le fait de, ben voilà, d'être avec Job IRL et tout ça et de proposer des stages pour que les jeunes viennent expérimenter. Ça, c'est vraiment très, très important. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Allez essayer, en fait. Allez essayer des jobs, allez regarder ce que c'est. On a tous été traumatisés par le stage de troisième. On peut le faire plus tard, en fait, et faire des choses chouettes où on va rencontrer un métier. Et il y a aussi, dernière chose, bah, tous ces témoignages d'entreprises qui permettent de dire voilà ce qu'on fait. On a vu sur les réseaux sociaux beaucoup d'entreprises qui se mettaient en avant en disant bah, voilà, chez nous, c'est différent. Alors, ce sera jamais le paradis, on est bien d'accord. Par contre, on est de plus en plus à chercher des collaborateurs avec qui on co-construit notre projet d'entreprise et expliquer à la personne qu'on recrute qu'elle fait partie d'un projet et d'une vision. En tout cas, nous, ça nous donne cette idée que bah oui, on lui apporte plus qu'un simple salaire.
Donc, tu as des projets, des actions en place pour faciliter l'accès à l'emploi aux femmes. Tu as parlé des jeunes. Tu as des actions aussi sur la neurodiversité?
Alors, j'ai des actions sur la neurodiversité. Là, je suis plus sur tout ce qui va être acculturation et sensibilisation. Je fais un colloque notamment là bientôt le 10 mars pour décrypter justement les diversités cognitives pour que là aussi les entreprises n'aient pas peur d'un dyslexique, d'un haut potentiel ou d'une personne TDAH et que les personnes dyslexiques au potentiel TDAH, etc., osent aller en entreprise et osent dire, OK, moi, je peux venir bosser, j'ai quelques spécificités, il suffit juste qu'on s'entende. Il y a aussi beaucoup de personnes, notamment chez les TSA, qui se cloîtrent ce mur et ne vont pas prendre du travail, essaient de rester avec une allocation MDPH quand ils y ont droit, mais n'osent pas aller sur le marché du travail. Or, moi, je milite pour la richesse de la différence et toutes ces belles choses qu'on peut construire ensemble. Donc là, je suis plus aujourd'hui dans mes actions personnelles sur de l'acculturation et de la sensibilisation.
Que tu peux définir TDAH et TSA.
Oui, bien sûr. TDAH, donc personnes ayant des troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc des personnes pour qui c'est très difficile d'être sur une tâche en restant concentré sur un long moment, des personnes qui s'épuisent beaucoup. Et TSA, c'est le nouveau nom, j'allais dire, quand avant on parlait de personnes Asperger, on a changé la sémantique. TSA, c'est donc toutes les personnes qui sont dans le trouble du spectre autistique. Qui peuvent être ou pas à haut potentiel intellectuel, donc des personnes qui ont des comportements plutôt obsessionnels dans certains domaines, qui vont adorer telle chose jusqu'à épuiser le sujet, et qui ont des relations sociales plutôt complexes, en fait. soit ils sont extravertis, et là, c'est un peu, voilà, ça part dans tous les sens, soit ils sont plutôt introvertis, et ce sont des personnes avec qui vous avez du mal à vous lier, en fait, une relation.
Quelque part, on peut le voir comme un inconvénient de se casser la tête à essayer d'intégrer des personnes avec autant de diversité. Quel est l'intérêt que peuvent trouver les entreprises ?
Alors, si tu prends toutes les diversités cognitives, c'est presque 25% de la population, donc une personne sur quatre. À un moment, tu ne peux pas laisser une personne sur quatre dans un placard ou être malheureuse. Ça n'engage que moi. Et l'intérêt des entreprises, c'est de se rendre compte que effectivement, il y a des cerveaux qui voient le monde différemment, donc qui gèrent des problèmes différemment, qui ont des solutions différentes. Et moi, je crois beaucoup, et toutes les personnes avec lesquelles je travaille, nous croyons beaucoup en la richesse de fait de croiser ces différentes visions. Donc, c'est aussi permettre de, ben voilà, c'est apporter une nouvelle vision sur ce qu'on fait et travailler avec des personnes qui sont différentes. Enfin, voilà, pour moi, ça reste aussi une notion de culture. C'est cette fameuse inclusion dont on parle, mais c'est aussi donner sa chance à chacun d'apporter sa richesse et son talent parce qu'on en a tous un.
Ça redonne plein de pistes, plein d'espoir, tout ça. Donc, on a du mal à trouver des gens qui veulent bien travailler dans des entreprises sous un format classique, traditionnel, le format qui était là jusqu'à présent. Mais si on remélange un petit peu les cartes et qu'on remet en question quelques éléments de culture, peut-être quelques clichés, finalement, ça peut aussi ouvrir des nouvelles portes.
Totalement. Il y a aussi le sujet de la semaine de 4 jours. Il y a aussi le fait d'être salarié, mais sur plusieurs entreprises. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on a besoin d'inventer des nouveaux modèles pour que chacun s'y retrouve. On a vu l'impact du télétravail, on a vu toutes ces choses-là qui ont coupé les relations, mais les gens se sont rendus compte aussi que leur vie était chouette. Donc, il y a eu besoin de trouver un équilibre. Donc, je pense que construisons ensemble des nouveaux modèles qui vont permettre que chacun s'y retrouve et qu'on continue à être dans une économie, j'allais dire, raisonnée. Alors là, qui permette que chacun se sente bien là où il est pour ce qu'il fait, si ça aide la planète. Hein.
Où est-ce qu'on peut trouver tes livres et puis ton One Woman Show, ton spectacle ?
Ouais, tout est sur mon site internet, fairstreet.fr.